Alors, si on s'amusait à traduire littéralement l'hébreu ancien du livre de l'Exode, on tomberait sur un truc assez dingue.
Ouais, la fameuse histoire du nez géant.
Exactement. Le texte affirme très sérieusement que Dieu possède un nez de près de 2 mètres de long.
Ce qui est, disons-le, une image complètement absurde.
C'est clair. Mais en fait, ça cache une clé de lecture fondamentale. C'est le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui dans les notes de conférence du docteur John Oswald sur les chapitres 26 et 27 d'Ésaïe.
Un texte qui est hyper complexe. Et notre mission aujourd'hui, c'est pas de faire un truc scolaire, mais de vraiment extraire les pépites de cette analyse.
Ouais, on va voir comment un texte aussi ancien aborde des concepts ultra modernes, l'anxiété, la perte de concentration, le libre arbitre et cette fameuse recherche d'une paix totale.
Et le docteur Oswald fait ça brillamment, en mélangeant l'analyse linguistique, l'histoire et la philosophie.
Du coup, pour en revenir à ce nez de 2 mètres, pourquoi le texte originel dit ça? Je suis vraiment fascinée par cette image.
Bah, en fait, c'est l'exemple parfait pour casser le mythe de la traduction littérale. Le docteur Oswald s'en sert pour montrer qu'il faut chercher l'intention, pas juste le mot à mot.
Parce que dans la mentalité de l'époque, la colère est liée à la chaleur, c'est ça?
Voilà. Les anciens Hébreux voyaient la colère comme une augmentation de la température. Le visage rougit, les narines s'échauffent. Donc, dire de quelqu'un qu'il a un long nez, ça veut dire que la chaleur doit parcourir 2 mètres avant de sortir.
Ah, ça prend du temps.
Exactement. Le vrai sens, c'est « Dieu est lent à la colère ». Si tu traduis mot à mot, tu as une caricature grotesque. Mais si tu cherches le sens, tu as une vérité profonde.
Décortiquons un peu ça. Si on s'attache trop à la lettre, on rate carrément l'esprit du texte. C'est pour ça qu'Ésaïe utilise des métaphores aussi intenses, comme cette histoire des deux cités.
Oui, c'est tout à fait ça. Ésaïe oppose la cité de la terre à la cité forte. C'est pas de l'urbanisme, c'est de la psychologie et de la spiritualité.
La cité de la terre, c'est la cité hautaine, c'est bien ça?
Absolument. C'est l'idéal humain de la sécurité. On bâtit des murs basés sur l'oppression, sur la force brute. C'est hyper instable parce que c'est fondé sur l'arrogance.
Et face à ça, on a la cité forte.
Voilà. Et là, les murailles, c'est pas de la pierre. C'est le salut divin lui-même. C'est une sécurité totale. Toute notre expérience humaine, en fait, navigue entre ces deux idéaux de sécurité.
C'est fascinant. Mais du coup, puisque cette cité forte offre la sécurité ultime, comment on y entre? Et surtout, est-ce qu'on peut en être expulsé? Ça soulève la question du libre arbitre.
Ah, le fameux libre arbitre. Le docteur Oswald est très clair là-dessus. Il rejette catégoriquement l'universalisme.
Cette idée que quoi qu'on fasse, tout le monde sera sauvé à la fin.
C'est ça. Dieu ne sauve personne contre sa volonté. Pour illustrer ce refus, il cite un bouquin incroyable de C.S. Lewis, Le Grand Divorce.
Oui, avec cette histoire de voyage en bus.
Ouais. Dans cette histoire, les habitants de l'enfer prennent un bus pour visiter le paradis.
Et la logique voudrait qu'ils supplient d'y rester, non?
Ben non, justement. Ils choisissent presque tous de retourner en enfer. Ils sont tellement habitués à leurs petites obsessions, à leur orgueil, que la solidité du paradis les blesse. L'herbe du paradis leur perce carrément les pieds.
C'est dingue. Ils préfèrent le confort de leur propre toxicité. D'ailleurs, Ésaïe montre la même chose avec le peuple de Moab, non?
Absolument. L'orgueil de Moab les conduit littéralement dans un tas de fumier métaphorique. Ils refusent de lâcher leur fierté, même si ça les détruit.
Mais alors, si notre volonté est si déterminante, ça fait un peu peur. Dans la source, l'orateur utilise l'analogie du mariage. Un époux imparfait ne détruit pas son mariage par une seule erreur parce que l'amour est fort.
Tout à fait. C'est pas une question de perfection absolue.
Mais attention, il précise bien qu'une arrogance continue, un refus de changer ça peut nous exclure. C'est le paradoxe, non? La sécurité nécessite une participation active.
C'est un super résumé. La vraie menace, c'est pas l'erreur ponctuelle, c'est la perte de concentration. Et pour expliquer ça, il raconte l'histoire de Jim Ryan.
Le coureur de fond.
Ouais. Le gars a 40 mètres d'avance, la course est gagnée d'avance. Et là, qu'est-ce qu'il fait?
Il regarde derrière lui.
Exactement. Il perd sa concentration une fraction de seconde, il trébuche sur les cendres du bord de piste et il finit troisième. Le diable, ou le chaos, agit comme ça. Il disperse notre attention.
Donc cette participation active, cette concentration, c'est ça qui mène au shalom. Et là, faut qu'on redéfinisse ce mot.
Ouais, parce qu'on traduit toujours ça par paix.
Mais la paix aujourd'hui, c'est juste l'absence de conflit. C'est hyper plat comme concept.
Le shalom biblique, c'est la plénitude. C'est le fait d'être rassemblé, d'être complet.
J'adore l'anecdote de la source avec ce genre de tuba.
Ah oui, dans la fanfare de la marine.
Le gars buvait du whisky en cachette pour empêcher son tuba de geler. Sa vie partait dans tous les sens. Et après sa conversion, il fait cette prière incroyable.
Seigneur, rassemble ma vie en une grosse boule de neige et jette-la sur la cible de Jésus.
C'est tellement visuel. L'idée que toutes les parties éparpillées de notre vie soient compactées.
Voilà, c'est ça le shalom. L'énergie n'est plus dispersée, elle est focalisée.
Mais du coup, si ce shalom est l'objectif absolu, pourquoi Dieu permet-il encore la souffrance? Pourquoi il bénit pas juste tout le monde pour régler le problème?
C'est la grande question. Et Ésaïe dit un truc très dur. Il dit que si on fait grâce aux méchants, il n'apprend jamais la justice.
C'est hyper contre-intuitif pour notre époque. On a l'impression que l'amour inconditionnel doit toujours tout effacer.
Sauf que l'absence de conséquences est toxique. L'orateur fait d'ailleurs une analyse très neutre de l'Amérique moderne là-dessus.
Oui, il observe que 200 ans de bénédiction et de prospérité matérielle, ça n'a pas rendu la nation humble.
Au contraire, ça a poussé les gens à croire qu'ils l'avaient mérité, qu'ils avaient intrinsèquement raison. Ça mène direct à l'arrogance.
C'est un peu le piège de la faveur prolongée. Mais alors, comment les personnes qui cherchent la justice sont censées influencer le monde, sans juste devenir condescendantes et condamner les autres, je veux dire?
La clé, c'est le concept de délivrance. L'orateur prend l'exemple de Mère Teresa.
Ah oui.
Quand elle s'agenouillait dans la saleté de Calcutta, elle n'en était pas souillée. Sa simple présence, parfaitement transformée, agissait comme un miroir.
Elle n'avait pas besoin de faire la morale aux gens?
Non, pas du tout. La lumière condamne les ténèbres par simple contraste. Ça donne faim aux autres de trouver cette même paix.
C'est super fort. Et cette transformation profonde, ça implique de combattre un désordre vraiment fondamental. Ce qui nous amène au chapitre 27 et à cette histoire de Léviathan.
Le monstre marin du chaos, oui. C'est passionnant parce que ça montre une différence radicale de vision du monde.
Entre les mythes païens et la vision hébraïque, et c'est
ça ? Les païens croyaient que le monde était né du chaos, que la matière était éternelle et que l'ordre était juste une anomalie temporaire.
D'ailleurs, l'orateur note que c'est étonnamment proche de la science moderne, sans Dieu. L'univers comme un accident aléatoire.
Exactement. Mais la vision hébraïque dit l'inverse. Elle dit que Dieu a créé l'ordre dès le départ. Le chaos, c'est le péché humain qui l'a laissé entrer.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'orateur l'explique super bien. C'est comme la différence entre réparer une maison vandalisée, ça c'est la vision hébraïque,
et essayer de construire une maison au milieu d'une tornade, ce qui serait la vision païenne.
L'histoire de Louise Imperini, tirée du livre Unbroken, c'est vraiment l'illustration parfaite de cette maison vandalisée qu'on restaure.
Oh là là, oui. Le niveau de chaos dans la vie de cet homme, c'est indescriptible. Ancien coureur olympique, il se retrouve 47 jours sur un radeau de sauvetage dans le Pacifique.
Et les détails sont fous. La prière pour avoir de la pluie qui est exaucée en 6 heures. Les 48 impacts de balles de l'avion japonais et aucun survivant n'est touché.
Mais le vrai chaos commence après, quand il est envoyé dans ce camp de prisonniers de guerre avec ce gardien psychopathe qu'on appelait l'oiseau.
Et il survit à ça. Il rentre chez lui. Mais le chaos l'a suivi à l'intérieur.
Un trouble de stress post-traumatique massif, de l'alcoolisme sévère, jusqu'au point où il se réveille une nuit en train d'étrangler sa propre femme dans son sommeil.
Il croyait se battre contre son tortionnaire dans un cauchemar. Sa vie est complètement détruite.
Et c'est là qu'a lieu la transformation radicale. En 1950, sa femme le traîne à une croisade de Billy Graham.
Sous cette immense tente.
Il y va à reculons, rempli de rage. Mais au moment de partir, il se souvient de sa promesse sur le radeau. Et il marche vers l'hôtel.
Et le plus dingue dans cette histoire, c'est ce qui se passe physiologiquement à ce moment précis.
Oui.
La source est formelle. Tous ses flashbacks et ses cauchemars s'arrêtent instantanément.
Du jour au lendemain.
C'est ça, la victoire sur le Léviathan. Dieu ne bat pas le monstre pour créer le monde. Il le bat pour sauver l'humain de son propre chaos. Zamperini passe le reste de sa vie à aider des jeunes dans un shalom total. Il meurt à 97 ans.
Et l'anecdote à la fin de sa vie est géniale. À 92 ans, il grimpait encore aux arbres avec une tronçonneuse pour couper les branches.
Et quand son frère lui disait de faire attention, il répondait juste que Dieu le reprendrait quand il voudrait.
Ce à quoi son frère répond « Alors pourquoi tu essaies de l'aider ?» C'est brillant.
Cette vitalité prouve que Dieu remplace vraiment le chaos par l'ordre. Et ça nous amène à la toute dernière métaphore du texte, celle de la vigne.
Le passage où Dieu arrache les épines de sa vigne.
On pourrait croire que c'est de la punition, de la destruction pure et simple.
C'est la grande erreur qu'on fait souvent. Il faut vraiment distinguer la punition de la discipline.
La punition, c'est faire souffrir pour une faute passée, hein, c'est ça.
Voilà. Alors que la discipline, c'est permettre des conséquences pour engendrer une croissance future. Dieu arrache les épines, non pas pour détruire la vigne, mais pour la faire pousser.
Comme cette anecdote du coach de football américain.
Oui. Mmh. Le coach qui dit à ses joueurs « Inquiète-toi quand j'arrête de te crier dessus, parce que ça veut dire que j'ai abandonné. »
La destruction n'est jamais le dernier mot de Dieu.
Non. Son but intentionnel, c'est toujours la restauration.
Si on résume un peu notre parcours aujourd'hui, on est parti de cette nécessité de dépasser la traduction littérale.
Pour comprendre qu'on a le choix entre la sécurité illusoire de la cité de la Terre et la véritable cité forte.
On a vu l'importance vitale de la concentration face aux distractions, pour ne pas finir comme Jim Ryan.
Pour finalement permettre à Dieu de vaincre notre Léviathan personnel, notre chaos, et de nous amener à ce fameux shalom.
C'est ça. La véritable paix, c'est pas juste le calme plat, c'est la plénitude de tout notre être.
Une vie rassemblée et unifiée.
Et ça m'amène à une dernière pensée, vraiment pour nous tous, qui résonne avec cette idée de vigne et de raisin sauvage mentionnée dans le texte.
Je t'écoute.
Si on admet que le chaos n'est pas notre état d'origine, mais souvent le résultat de notre propre perte de concentration, quelle est cette petite zone de chaos, ces raisins sauvages, que chacun de nous entretient secrètement aujourd'hui?
Ah ouais, la petite zone qu'on pense pouvoir contrôler.
Exactement. Ce petit désordre secret qui, l'air de rien, bloque silencieusement l'accès à notre propre shalom. C'est une vraie question à garder en tête.
La sacrée question pour terminer, ouais.